Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Deux facettes du Liban sous la loupe cette semaine. Avec la journaliste Randa Sadaka, nous parlons d'une nouvelle émission sur Télé-Liban consacrée aux arts, à l'architecture et à la peinture. 5 de pique à voir chaque samedi. Et avec Yves Morard, vigneron dans le Luberon, région sud-est de la France, nous évoquons les vignobles de la plaine de la Beka, en plein renouveau depuis 30 ans, en grande partie grâce à notre invité. Certains vins du Clos Saint-Thomas ou de Château Kefraya rivalisent avec les plus grands crus de la planète. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Chers téléspectateurs, je suis Randa Sada et je suis très heureuse de vous présenter 5 de pique, une coproduction de la Fondation RAM et de Télé-Liban.
Randa Sadaka, bonjour.
Bonjour Eric.
Rédactrice en chef de la revue Pictorama, une revue culturelle et artistique libanaise de langue française dont nous parlons régulièrement dans Orient Hebdo. Vous animez également une émission sur Télé-Liban, 5 de pique, dont nous venons d'entendre le générique. Alors de quoi s'agit-il dans cette émission ?
Oui, donc 5 de pique, c'est les 5 minutes de Pictorama. C'est un format audiovisuel court, francophone. Le programme est sous-titré en arabe et c'est une coproduction de la Fondation RAM et de Télé-Liban, diffusée chaque samedi à 16h30 sur Télé-Liban. Et l'idée, c'était de favoriser la création nationale artistique. Donc la Fondation RAM a proposé à Télé-Liban ce programme et Télé-Liban a répondu immédiatement à l'appel que nous avons lancé, puisque l'aspect fédérateur du programme relevé pour cette station d'une mission d'intérêt général que seule une chaîne nationale pouvait produire et assumer. Donc il s'agit de présenter chaque semaine l'œuvre d'un peintre, d'un sculpteur, d'un photographe libanais au Liban ou dans le monde, et de manière exceptionnelle l'œuvre d'un artiste de renommée internationale qui exposerait au Liban. Et j'ajoute à ce titre que le Pictorama est désormais offert avec un CD qui reprend les épisodes de l'année écoulée, qu'on est aussi disponible sur YouTube.
Alors, l'émission donc s'appelle 5 de pique. Pique, on comprend, hein, c'est Pictorama. 5, ça fait référence à une expression anglaise qui est take 5, donc qui veut dire grosso modo prenez 5 minutes pour réfléchir. Est-ce que finalement 5 minutes par semaine pour réfléchir sur la culture au Liban, c'est suffisant et est-ce que c'est nécessaire ?
C'est jamais suffisant, la réponse est clairement non. Nécessaire absolument, puisque nous rentrons, les artistes libanais sont présents dans les plus grands musées au monde. Je peux notamment citer une donation d'œuvres photographiques faite par la RAM au musée Pompidou en 2016, d'artistes libanais. Donc nous avions envie de partager cette bonne nouvelle. L'art libanais est présent dans le monde, mais nul n'est prophète en son pays. Et il arrive parfois que les Libanais ne soient pas conscients de la richesse de notre patrimoine artistique. Il s'agit donc de le démocratiser sans frontières territoriales.
Alors pourquoi faire une émission en français qui est évidemment sous-titrée en arabe ? Est-ce que l'inverse serait envisagé ?
Pas du tout. En fait, Pictorama est un média militant de l'information, cher Eric. L'usage de la langue française comme support exclusif de travail n'est pas anodin. C'est un moyen de défendre activement la francophonie contre la réduction lexicale, la paupérisation sémantique, je dirais. Et puis le français constitue un foyer d'expression salutaire au Proche-Orient. Donc la langue de travail de la Fondation RAM, c'est le français. Idem pour Pictorama et son émission 5 de pique.
Randa Sadaka, quels sont les thèmes que l'émission a déjà évoqués ?
Alors dans les premiers épisodes, nous avons parlé du musée national, qui est, si vous voulez, le joyau national, et nous avons présenté la mosaïque Calliope et les 7 pages, qui a été découverte à Souaïdié, dans la banlieue sud-est de Baalbak, et qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc nous tenons, si vous voulez, aussi à mettre en avant l'actualité du musée qui vient d'ouvrir un sous-sol dédié aux rites funéraires, un espace qui offrira d'ailleurs la plus grande collection de sarcophages anthropoïdes au monde. Puis l'épisode numéro 1 consacre son sujet à Omar Oumsi, jeune femme visitant l'exposition. Donc c'est un contraste sociologique que nous mettons en avant dans cet épisode, puisqu'il s'agit d'une étude réalisée par des spécialistes du musée métropolitain de New York qui sont venus visiter le collectionneur Samir Abdellamar et étudier le contraste sociologique de la société libanaise dans cette toile. Et puis nous parlons aussi du pays chaud, une toile très importante de l'artiste peintre Shafi Aboud, qui est connu dans le monde. Et ce qui est très intéressant dans ce tableau, si vous voulez, c'est les lumières, les couleurs du Liban, les lumières éclaboussantes, comme les nommait l'artiste. Et c'est finalement toutes les contradictions et la complexité du rapport que Aboud, mais de nombreux artistes, entretenaient avec leur pays que nous mettons en avant. Nous y viendrons, mais nous avons choisi, si vous voulez, un déroulé chronologique, puisque la peinture moderne, côté des géants au Liban, il était important de les mettre en lumière. Mais petit à petit, chronologiquement, nous arriverons à la peinture contemporaine, mais aussi à la sculpture, aux installations et à la photographie.
Randa Sadaka, cette émission pourrait-elle être exportée, notamment en Afrique francophone ou en Europe ?
Nous l'espérons, nous pensons que l'art libanais ne devrait pas connaître de frontières. J'aurai d'ailleurs le plaisir de présenter cette émission aux Journées du Liban à Paris. Les éditeurs qui le souhaitent sont les bienvenus. C'est le samedi 13 mai à 19h dans l'espace Blanc-Manteau dans le Marais. Et puis j'aurai aussi le plaisir et l'honneur de présenter le programme télévisé devant les pompes de la COPEAM, la conférence permanente des pays de l'audiovisuel du Sud, au mois de mai à Beyrouth, puisqu'ils se réunissent sous la présidence du PDG de Télé-Liban, Talal Magdeki.
Rappelons, Randa Sadaka, les horaires de diffusion de 5 de pique sur Télé-Liban.
Oui, c'est chaque samedi à 16h30.
Merci Randa Sadaka. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la revue Pictoram et que vous produisez cette émission 5 de pique sur Télé-Liban.
Merci Eric.
Orion Hebdo sur RFI.
Yves Morard, bonjour.
Bonjour.
Vigneron dans la vallée du Rhône, près de Baume de Venise, donc c'est les côtes du Rhône du Sud. Vous avez surtout travaillé pendant de nombreuses années au Liban. Expliquez-nous comment vous avez pu être vous-même vigneron dans ce pays du Moyen-Orient.
Bon, un petit peu ce que j'appelle moi la chance de ma vie, c'est la rencontre un jour avec Monsieur Bustros, après des années de galère un petit peu en faisant des stages en France et un deuxième diplôme passé, ben, je suis tombé sur une annonce cherche œnologue pour le Liban. J'ai répondu à l'annonce et je me suis fait prendre au piège. Je me suis retrouvé avec un contrat que j'ai signé.
Et vous êtes resté combien de temps ?
Ben, je suis parti en 1980 et je suis revenu en 2005.
Alors comment fait-on du vin au Liban ?
Oh ben c'est le plus facile du monde. Les vignes sont magnifiques, il y a 1000 mètres d'altitude, il n'y a presque pas de maladies. C'est vraiment le pays de l'origine du vin, hein, j'en suis persuadé. Et c'est un pays où tout le monde devrait investir dans la vigne. Hein. Dans toutes ces collines libanaises qui aujourd'hui sont abandonnées, il faudrait planter de la vigne.
Aujourd'hui, il y a encore des vignes qui fonctionnent, il y a des caves qui fonctionnent.
Bien sûr, moi j'ai travaillé pour Château Kefraya pendant 15 ans. Ensuite, je les ai quittés, je suis rentré une année en France et j'ai ensuite proposé mes services pour la construction de deux autres caves à Kefraya et la plus grosse du Moyen-Orient à l'époque. Et la cave de Clos Saint-Thomas, et d'autres depuis ont poussé. Hein. Les gens ont suivi un petit peu mon exemple d'aller faire du vin dans un pays où le raisin est très beau, superbe. Il n'y a pas besoin de 50 traitements sur la vigne.
Hein. Quel genre de cépage vous cultiviez au Liban ?
Bon, au départ, c'était les mêmes cépages que les Côtes-du-Rhône, c'est-à-dire Cinsault, Carignan, Grenache. Ensuite, les jésuites, dans les années 1800, ont fait des plantations nouvelles, de Cabernet Sauvignon. Moi, j'ai rajouté le Syrah, le Viognier, le Fouligny Blanc a été planté. Il y a pratiquement tous les cépages de la vallée du Rhône.
Donc pour vous, qui êtes justement issu de la vallée du Rhône, c'était un pays connu finalement ?
Ah ben oui, avec mon petit Ventoux natal, je me suis retrouvé en plus que à Kefraya, là où j'étais, il y a une montagne qui s'appelle le Barouk et qui ressemble étrangement au Ventoux dans lequel je fais le vin aujourd'hui. Et c'était vraiment magique. Enfin, moi, j'ai passé 25 ans au Liban, je me suis régalé.
Qui sont les investisseurs ? Qui sont ceux qui créent ces caves au Liban ?
Ben écoutez, les Libanais eux-mêmes, hein, quelques étrangers sont venus, quelques Français sont venus investir un petit peu, mais ce sont des Libanais qui finalement se sont aperçus, notamment quand moi j'ai commencé à faire des vins, j'ai fait connaître la jeunesse du vin, tandis que les Libanais buvaient que des vins vieux. Et les gens se sont mis à apprécier ce vin, à goûter ce vin, et quand ils se sont aperçus que c'était vraiment chez eux que c'était fait, ben, les investisseurs s'y sont beaucoup intéressés. Hein.
Mais on fait du vin vraiment de très bonne qualité au Liban aujourd'hui ?
Ah superbe, hein. Moi j'ai eu un de mes vins sacré parmi les 19 meilleurs vins au monde en 1995. Hein. Ce sont des vins qui sont régulièrement diplômés dans tous les concours internationaux. Non, on fait de superbes vins au Liban.
Quelles sont leurs caractéristiques gustatives à ces vins ?
Ah ben, c'est surtout ce que moi j'appelle le miracle libanais, le miracle de la Beka, c'est une fraîcheur, un fruité comme je n'avais jamais pu goûter avant. Vous mangez une fraise au Liban, mais elle est magnifique. Une tomate, mais c'est une tomate qui s'appelle une tomate. J'ai vu des grappes de raisins inimaginables en France, que je ne pouvais pas imaginer. Et super belle et pas malade.
Aujourd'hui, on continue à produire de très très bons vins au Liban, parce qu'il y a quand même des difficultés, vu la situation économique, sociale et aussi régionale.
Bah, vous savez, le métier de viticulteur, c'est un métier où il faut endurer pas mal de choses. Donc, je pense que jusqu'à ces 10 dernières années où je n'étais pas présent physiquement au Liban, le vin s'exportait dans le monde entier. Moi, je vois Château Kefraya et d'autres, c'est plus d'un conteneur à Paris par mois, hein. Toutes les capitales du monde sont alimentées grâce à la diaspora libanaise qui, elle, est dans le monde entier et surtout ouvre des restaurants de partout. Donc le vin est bien connu et ça marche. Hein. Moi, je planterai le Liban en entier. Hein. D'ailleurs, je crève d'envie d'y retourner pour essayer de faire encore quelque chose et d'améliorer encore les choses. C'est vraiment génial, c'est un pays génial. Hein.
Au Liban ou peut-être en Syrie, je crois qu'il y a aussi des vignobles qui sont en train d'être plantés en Syrie depuis quelques années.
Ça a été fait, mais bon, avec les événements actuels, je ne sais pas ce que c'est devenu. Mais la Syrie, c'est un petit peu comme le Liban. Hein. C'est de la montagne, c'est le bord de mer, c'est le Moyen-Orient. D'après moi, c'est l'origine du raisin. Hein. Et l'origine du vin, les Phéniciens. Hein, les premiers pressoirs, on les a trouvés à Byblos, au Liban. Non, la Syrie a un très grand avenir viticole, j'en suis persuadé aussi. Hein. Mais bon, il faudrait que ça se calme un peu maintenant.
Aujourd'hui, il y a des grands noms qui investissent dans le vin au Liban ?
Oui, bah, vous avez déjà les politiques libanais qui ont investi un petit peu. Hein. Un des célèbres, les plus célèbres, c'est Walid Jumblatt, que j'ai beaucoup aimé en tant qu'actionnaire de la cave de Kefraya. Carlos Rosen, le PDG de Renault, y investit aussi. Il y a pas mal, donc je ne connais pas exactement les noms, mais il y a eu, depuis mon départ du Liban, il y a une dizaine d'années, une vingtaine de caves de créer, hein. Ça marche.
Vous allez y retourner ?
Moi, j'espère bien.
Merci.
À bientôt.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, à la une de la presse panarabe, le début de la conférence de Genève entre les autorités syriennes et l'opposition.
Oui, et la presse est loin d'être optimiste. En fait, l'objectif de ces négociations, c'est de parvenir à un accord de transition politique avant la tenue d'élections générales en Syrie. Alors, ces négociations, selon plusieurs éditorialistes, sont en fait tributaires de la situation sur le terrain où les forces du régime Assad et leurs alliés iraniens et russes ont nettement progressé. Alors, une situation qui, selon Al-Quds Al-Arabi, a poussé de nombreux responsables de l'ONU, normalement censés jouer les arbitres, ces responsables sont devenus des alliés implicites du régime de Bachar el-Assad. Pour l'éditorialiste du journal Al-Haya, le vrai problème, c'est la fluidité des alliances entre la Turquie, l'Iran, la Russie et l'Arabie, ainsi que l'absence américaine et la position embrouillé de l'administration de Donald Trump.
Alors, ce qui fait la une de la presse israélienne, Michel Paul, c'est la condamnation à 1 an et demi de prison d'Elior Azaria, ce soldat qui avait achevé un Palestinien qui venait de tenter de poignarder un militaire et qui gisait au sol.
À l'étranger, on estime que la condamnation du soldat franco-israélien est trop légère. Mais Eric, selon un sondage publié par le quotidien Mariv, 56% des Israéliens pensent au contraire que la peine infligée à Elior Azaria est trop sévère. Et pour 69% des personnes interrogées, il faut maintenant amnistier le soldat. Un événement purement cosmétique, estime un chroniqueur. Des erreurs en série, affirme un autre commentateur. D'autres articles comparent le soldat lui-même à une marionnette manipulée par les politiciens. Alors il y a ceux qui défendent bien sûr la décision de la cour militaire en parlant de l'intelligence des juges. Un chroniqueur de Yediot Aharonot conclut que dans cette affaire, c'est en fin de compte le terrorisme qui a gagné. Pour Haaretz, c'est la politique de la détente facile qui l'emporte. Eric, on a une autre affaire ici qui fait la une de la presse israélienne. C'est l'affaire d'un bédouin tué après avoir écrasé un policier lors d'une opération de destruction de maisons illégales dans un village du désert du Negev. Selon la police des polices, il s'agirait d'un accident et non pas d'un acte de terrorisme. Un nouveau coup dur donc pour le ministre de la Sécurité intérieure qui s'était empressé de parler d'attentat nationaliste. C'est la vérité qui a été écrasée, affirme Yediot.
Et autre sujet dans vos journaux, Michel, le changement d'orientation pour la Cour suprême israélienne.
Trois juges sur les quatre nouvellement élus à la Cour suprême israélienne sont des conservateurs. La ministre israélienne de la Justice, Ayelet Shaked, qui appartient à l'aile droite du gouvernement, a tenu ses promesses, comme le souligne le quotidien Haaretz, qui parle de révolution anticonstitutionnelle à l'encontre de ce qui fait le titre des autres quotidiens, qui eux citent la ministre, la révolution conservatrice. Le message est clair pour les autres juges, estime un éditorialiste, et le résultat, explique plusieurs commentateurs, se fera ressentir notamment lors des recours de Palestiniens devant la plus haute instance juridique israélienne, également lors de l'adoption de lois ultranationalistes par la Knesset.
Alexandre, les éditorialistes du Golfe s'intéressent à un nouveau bras de fer entre islamistes et laïcs au Koweït.
Oui, les députés islamistes du Parlement koweïtien réclament un amendement de l'article 79 de la Constitution, un article qui stipule que toute loi n'est effective que si elle est approuvée par le Parlement et ratifiée par l'émir. Alors les islamistes veulent ajouter, la loi n'est effective que si elle est aussi conforme à la charia. Un amendement qui remettrait en question la laïcité de l'État, objectent les libéraux et la gauche. Un conflit qui constitue une menace pour la démocratie koweïtienne, estiment des commentateurs. Alors il faut rappeler que la démocratie koweïtienne, même si elle est relative, elle reste par rapport aux autres pays du Golfe une avancée incontestée.
Également dans la presse arabe, Alexandre, les contrats d'armement records lors de la foire internationale IDEX à Abu Dhabi.
Oui, IDEX pour International Defense Exposition. Alors, il y a eu 90 contrats pour une valeur de plus de 5 milliards de dollars qui ont été signés lors de cette version 2017, indique la presse. Un chiffre qui n'a jamais été enregistré dans cette foire annuelle de l'armement qui se tient à Abu Dhabi depuis 1993. Alors, cette année, précisent les journaux du Golfe, a été aussi un record au niveau de la participation. Il y a eu 1235 exposants venus du monde entier. Et puis, il faut rappeler peut-être que les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats, étaient les plus gros acheteurs d'armes en 2016. Et ces trois pays participent à la coalition arabe armée contre la rébellion Houthi au Yémen. Et puis, les pays du Golfe s'arment aussi pour faire face à ce qu'ils considèrent comme une menace, c'est-à-dire l'Iran, et leur allié égyptien, lui, s'arme aussi pour faire face à une éventuelle menace venant de Libye.
Alors dans la presse israélienne encore, Michel, Human Rights Watch, une organisation qui n'est pas en odeur de sainteté en Israël, et puis toujours les enquêtes contre le Premier ministre.
Alors Israël part en guerre contre cette ONG, Human Rights Watch. Le nouveau directeur pour Israël et la Palestine de l'organisation, un Américain, n'a pas obtenu de visa d'entrée en Israël. C'est une organisation qui fait le jeu des Palestiniens contre Israël, affirme-t-on au ministère israélien des Affaires étrangères. Selon le Jerusalem Post, à Human Rights Watch, on se déclare surpris de la décision israélienne qui rejoint ainsi les rangs des pays tels la Corée du Nord qui boycottent l'organisation. Et puis également dans la presse de ce week-end, donc, la police israélienne qui a trouvé un témoin à charge dans une affaire de malversation dans laquelle serait impliqué le Premier ministre Netanyahou. Il s'agit de l'un de ses anciens conseillers qui lui aussi est impliqué, mais qui en échange bénéficierait de la clémence du parquet.
Et pour conclure, Michel, votre photo de la semaine.
Eh bien, c'est la photo de l'ancien grand rabbin ashkenaz d'Israël, Yonah Metzger, condamné pour corruption. Il va passer 4 ans et demi derrière les barreaux.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une réalisation de François Porcheron que vous pouvez retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons la frénésie des musées dans les principautés du Golfe arabo-persique. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.